décrire un paysage. Chaque paysage est une construction humaine qu'il s'agit de déchiffrer pour lui donner du sens et comprendre son origine, son fonctionnement. Décrire un paysage, c'est dire quelles sont ses composantes et comment il s'organise.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour cette première table ronde de la journée, il nous a semblé important de questionner le thème même que nous avons choisi, le paysage. Je ne vous cache pas que cette notion a fait débat au sein de notre équipe, tant il pouvait apparaître paradoxal de prendre pour thème d'une journée radiophonique ce que le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales définit comme une vue d'ensemble qu'offre la nature d'une étendue de pays, de régions. Comment peut-on travailler, transcrire sonorement ce qui apparaît comme irrémédiablement visuel ? Le paysage à la radio est-il une chimère ou un terrain de jeu ? Qu'y a-t-il dans le champ du micro ? Pour nous accompagner, Sarah et moi, et tenter de nous aider à démêler les fils du paysage de radio, nous avons le grand plaisir d'accueillir Mehdi Aoudig et Daniel Dehay. Bonjour à tous les
bonjour.
Deux.
Bonjour.
Pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter chacun rapidement ?
Je suis preneur de son. J'enseigne depuis un certain temps et en même temps, cet enseignement, je crois, m'a fait repenser ma méthode ou mes approches, mes façons de travailler. Donc, dans les domaines où j'ai travaillé, qui sont cinéma, théâtre et musique.
Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, du coup, que ces réflexions
voilà,
vous ont mené à écrire.
Voilà, c'est ça. Les livres viennent de l'expérience, ouais.
Merci beaucoup. Mehdi Aoudig ?
Alors moi, aujourd'hui, je dirais que je suis auteur de documentaires, souvent radio, mais aussi audiovisuel, soit en collaboration avec des personnes qui font de l'image, comme Samuel Bollendorf, avec qui on a réalisé beaucoup de choses, en photographie parlante, ou alors seul, là, comme je suis en train de le faire. Enfin, je dis seul avec des grands guillemets, parce qu'on n'est jamais seul quand on fait un film. Mais voilà, c'est ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis aussi passé, d'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Daniel, c'était dans un théâtre, et j'étais technicien, je faisais un stage, voilà, sur une pièce de théâtre sur laquelle Daniel faisait le son. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai commencé par écouter Daniel en fait.
C'est comme ça que j'ai commencé par
écouter Daniel et j'étais assez impressionné par le fait qu'il faisait le son d'une pièce de Sénèque, une trilogie je crois. Et en fait il venait beaucoup aux répétitions, il était très 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 présent, mais il proposait assez peu de son en fait, et je trouvais que son aplomb a été quelque chose de très formateur pour moi en fait, parce qu'on pourrait imaginer que finalement les gens qui nous marquent quand on fait du son c'est les personnes qui nous ont fait écouter plein de choses et qui nous ont abreuvé d'exemples, et en fait cette approche par le entre guillemets le vide, hein, je mets des grands guillemets au vide, le vide, le silence et surtout cette est-ce que c'est utile en fait de mettre un son, et ben ça m'a énormément apporté, voilà. Donc j'ai commencé comme ça, technicien au théâtre, j'ai fait pas mal de bandes son pour le théâtre, je continue à en faire beaucoup moins puisque voilà, je sépare ma vie avec le documentaire et voilà, donc entre la technique et le travail d'écriture, voilà.
Merci beaucoup. Tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait des Appels de Tanger, une création de vous, Mehdi Aoudig, pour Arte Radio.
Yeah, I'll look for him like I see him.
En fermant les yeux et en écoutant cet extrait, moi j'ai l'impression de voir cette ville de Tanger, que personnellement je ne connais pas. Et j'ai l'impression de m'y retrouver plongée en fait et d'y être accompagnée en fait, de découvrir toute sa variété. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette création, la manière dont vous avez enregistré la ville, la manière dont vous avez conçu cet objet sonore et pourtant très puissant visuellement ?
Alors, déjà, c'était le fait d'être totalement immergé dans cette ville, puisque j'y étais allé. En fait, c'était pour tout vous raconter, c'était un cadeau d'anniversaire, donc j'étais tout seul à Tanger pendant une semaine. Et évidemment, j'avais emmené des micros et j'ai eu l'idée de faire ça, de me balader dans la ville. C'était au moment du Ramadan, donc il y avait des contrastes sonores très forts, puisqu'il y avait le moment où les gens, il y avait toute l'agitation qu'il y a juste avant le ftour, c'est-à-dire le repas qui rompt le jeûne. Donc il y a une agitation très forte et puis à un moment donné, pendant une demi-heure, une heure, il n'y a plus personne dans les rues. Et particulièrement ce qu'on vient d'entendre, les oiseaux qui envahissent la place, il s'est trouvé qu'il y avait un concours de circonstances qui faisait que ces étourneaux, ils envahissaient cette place à Tanger au moment où les gens étaient chez eux, quoi. Donc ça donnait un son absolument incroyable parce qu'il n'y avait plus de bagnoles, il n'y avait plus de gens, il n'y avait plus personne. Donc ça a été un peu mon moteur au départ. Et puis ensuite, il y avait déjà l'envie, c'était au début où je commençais les appels de Tanger, et il y avait déjà l'envie de tenter de créer un récit aussi, et particulièrement cet homme qu'on entend et qui appelle et qui est un vendeur d'eau, en fait. En fait, c'est un vendeur d'eau. Et donc, on le suit un peu au long de la création et on va vers, on part du chaos pour aller vers le silence et les appels à la prière du moment du Ramadan, quoi. Je sais pas si c'était la question, mais comment j'ai enregistré, c'est-à-dire avec quel micro ?
Oui, enfin.
Aussi de manière pratique.
Oui.
Ben, j'avais un peu, à vrai dire, je dois avouer que j'avais un peu fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'avais, je crois, d'ailleurs ça s'entend, hein, j'avais accroché deux micros sur mon sac, deux petits micros, et je m'étais baladé avec. Aujourd'hui, je ne le referai pas comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. En même temps, je l'assume très bien. Voilà, j'avais fait comme ça à ce moment-là parce que j'étais dans l'idée de cette discrétion. Bon, c'est vrai que pour suivre le vendeur d'eau, c'était mieux que je sois discret, sinon il aurait arrêté. Mais voilà, donc j'avais une longue séquence où je le suis, que je découpe au fur et à mesure.
Et en même temps, le fait que les micros soient physiquement sur vous, c'est peut-être ça qui donne cette impression d'immersion vraiment dans la ville. On est sonorement, l'auditeur est à votre place dans cette ville.
Oui, mais je crois que simplement, à mon sens, il y a un problème technique sur la prise de son. Mais je ne sais pas, certainement que Daniel pourrait le dire mieux que moi, mais je crois qu'il y a un problème un peu de phase, des choses comme ça. Enfin, là, c'est des choses assez techniques que maintenant j'entends ou j'ai l'impression qu'il y a des soucis. Mais en tous les cas, je pense que même quand on est visible avec une perche et un micro... je pense que ça n'empêche pas l'immersion parce que en fait je suis intimement persuadé que les personnes autour, le monde réel nous accepte avec notre perche et notre micro si nous-mêmes on s'accepte comme ça, quoi.
Bah, avant d'aller plus loin dans cette réflexion, je me dis qu'on peut peut-être faire un tour du côté de l'histoire du paysage à la radio, parce que ces termes appellent nécessairement l'expression de paysage sonore, inventé par Murray Schafer. Peut-être, Daniel Dehaye, vous pourriez nous faire un petit topo sur le paysage sonore, à la différence quelle est la différence entre le field recording, par exemple ?
D'abord, je crois qu'il faudrait revenir à l'origine de ce terme, parce que c'est 1549 en France, l'origine du terme. Et le paysage, ça définit en fait le tableau, le format du tableau. C'est-à-dire, ça n'est pas du tout la réalité du monde. Ça n'est pas du tout ce qu'il y a devant moi. C'est ce que je vais déposer sur la toile. C'est-à-dire qu'en fait, paysage induit déjà l'idée d'une reconstruction de quelque chose qui ne serait pas là déjà, mais au contraire qui serait quelque chose à venir, quelque chose en train d'être pensé, d'être trié, d'être sélectionné. Et ça, pour moi, c'est très très important, parce que c'est justement ça l'opposé au field recording. Le field recording, ça serait placer les micros un peu partout dans le monde et puis l'écouter. Alors effectivement, le fait de placer les micros dans l'espace nous fait écouter cet objet comme un objet différent, puisqu'on n'a pas l'écoute que l'on a normalement dans le monde, qui est une écoute de tri, qui est une écoute intelligente. Là, l'écoute du micro, c'est une écoute bête, c'est une écoute, l'inverse de l'écoute intelligente, ça prend tout. Ça prend tout, et donc ça nous présente un objet saturé, un objet surchargé, qui, dans lequel on va effectivement pouvoir entendre des choses, mais dans lequel on n'aura plus cette possibilité d'aller faire du tri. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, dans la réalité du monde, pour pouvoir en choisir le parcours subjectif que l'on va faire, dans l'enregistrer, les éléments sont là comme une espèce de totalité qui vaudrait pour. Alors effectivement, c'est une autre écoute, hein, c'est quelque chose d'autre. Pour moi, ce qui m'intéresse, au contraire, c'est justement cette reconstruction, c'est-à-dire finalement donner à entendre non pas la réalité du monde, mais une écoute du monde. Et la grande difficulté, c'est comment faire avec des outils qui ne sont pas faits pour ça, parce que le microphone, il prend tout. Hein, c'est un capteur de pression, c'est comme un baromètre, hein, il prend l'état de pression d'un lieu. Et il ne le tripe pas en termes de qualité ou en termes de désir. Donc comment, avec ces outils-là, refabriquer un objet qui serait une écoute ? Et du coup, ça pose beaucoup de problèmes. C'est la question de la déconstruction, hein, et de la reconstruction. Et les modes de déconstruction au son ne sont pas celles de l'image. À l'image, on peut détourer un objet et puis le sortir, et puis le réincruster dans autre chose. Au son, pas du tout. Tout est mêlé. Hein, c'est l'omelette. On n'a plus le blanc et le jaune. Et on ne peut pas retourner au blanc et le jaune quand on a l'omelette. Donc la question va être de déplacer, de choisir des lieux qui sont dans certains états de silence, de déplacer les moments de prise de son, de travailler la nuit, de travailler dans des moments de calme, pour pouvoir sortir les choses que l'on veut pouvoir sortir, hein, ou de les remettre en scène. Alors ça, c'est une autre expérience, c'est de réinstaller dans l'espace les éléments que l'on veut enregistrer. Et je crois que ça, pour moi, c'est à partir de cet endroit-là qu'on travaille dans le paysage sonore. C'est pas seulement faire du montage. Déjà, faire du montage, c'est déjà formidable, mais c'est, pour moi, c'est encore plus que ça. C'est évidemment faire du mixage, et c'est comprendre le temps, la durée de chaque élément, de chaque situation, comprendre les valeurs, et puis avoir su, au moment de la prise de son, faire des choix en termes de proximité, d'éloignement. Et ça, cette chose-là, c'est quelque chose qui se sent sur le terrain, qui est se couler dans la matière et essayer de faire apparaître dans le temps, c'est-à-dire dans la brièveté, hein, finalement, les éléments en une succession d'événements.
Moi je prolongerai ce que dit Daniel, c'est qu'il y a quelque chose quand on travaille avec les sons réels, c'est que à la fois on aimerait maîtriser, mais en même temps on travaille avec des sons réels, donc dans la réalité de ce monde, et on n'a pas envie d'être dans des studios. Enfin, en tous les cas, moi, c'était mon point de vue quand j'ai voulu faire du son documentaire, c'est de ne pas être dans un studio qui annule toute présence du monde. Et en même temps, parfois, on est effectivement, comme le disait très, très justement Daniel, c'est-à-dire on est dans une espèce d'omelette dans laquelle on aimerait bien quand même séparer des choses. Donc on est à la fois dans cette chose de la maîtrise, et à la fois on attend que surgisse quelque chose et qu'il fasse paysage, en fait. Et ça, je suis tout à fait... Je dirais que le micro, avant même le montage, c'est-à-dire que moi, je pense pas du tout montage au départ, je pense avant tout prise de son, et le premier outil d'écriture avec le son, c'est le micro, et c'est vraiment l'endroit où on le met, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire d'imaginer que l'enregistrement, c'est une position d'écoute où on est fixe, où on attend que ça se passe, et de toute façon, ce qui existe et rentre dans le micro, je pense que la prise de son, c'est quelque chose de très actif, parce que parce qu'on est un peu, on devient un peu le cerveau de l'oreille, quoi. C'est-à-dire que le micro, justement, il est effectivement assez bête, et donc nous, on doit lui dire qu'est-ce qu'il faut privilégier, à quelle distance on doit mettre, je sais pas, les gens qui rentrent dans la salle avec les pas, des choses comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment nous qui le décidons, quoi.
Ok, mais un peu lié, en fait, il y a une question qui nous avait frappé quand on avait pensé le paysage à la radio. C'était vraiment le contraste entre le paysage, un ensemble sursaturé, en fait, et plutôt lointain et horizontal, et puis cet outil qu'on utilise, justement, le micro. Parce que le micro, ça enregistre plutôt ce qui est proche, je pense. Et en plus, les sons enregistrés par le micro, enfin, vous l'avez dit, ne reflètent pas exactement ce qu'on entend. C'est un rapport à l'écoute, en fait. On n'entend pas forcément les gens qui rentrent dans la salle. On entend aussi le grésillement auquel on fait attention. Et du coup, ces sons-là ne reflètent pas spécialement ce qu'on perçoit du paysage. Et notre question, c'était comment rendre compte du paysage à la radio, pour vous, comment gérer ce paradoxe, en fait, entre les échelles proche, lointain, sursaturé et plus réduit.
Ben, en fait, la question du son, c'est la question de la distance. C'est-à-dire que finalement, le microphone, il valorise en fonction de la distance. Mais en même temps, les lointains sont là et sont très forts. Et les lointains ont des couleurs jusqu'à l'endroit où ils s'éteignent. Hein, et ça, c'est aussi en fonction du temps. C'est-à-dire que les sons vont en disparaissant peu à peu et vont se diluer dans ce qu'on appelle le bruit de fond, qui est le lieu du silence, en fait. Hein. Donc on est avec le son, avec des émergences qui apparaissent à différentes distances. Et cette question de la distance est absolument fondamentale, parce que c'est de ça, justement, et de la qualité de reproductibilité de la distance que se situe la qualité de la fabrication des images sonores, entre guillemets. C'est-à-dire que, évidemment, certains outils écrasent. Et l'avenue du numérique, par exemple, ça a été une catastrophe pour nous, parce que le numérique écrasait énormément, rendait tout à plat. À l'époque où on travaillait en analogique, on avait une profondeur de champ extraordinaire et on sentait les très petites choses lointaines, mais encore très ciselées, très fines, etc., très détachées. Et maintenant, il faut des très bons convertisseurs, il faut des très bons préamplis, des micros corrects pour pouvoir, mais c'est surtout les préamplis et les convertisseurs, pour pouvoir réobtenir ce détachement, ce cisaillement dans l'image sonore, qui fait qu'on peut la pénétrer, qu'on peut y voyager, sentir la profondeur et y être, entrer, habiter l'image.
Je pense que c'est effectivement intéressant, cette histoire de proximité, mais il y a aussi une autre notion dans le paysage sonore, c'est le son. Ça, avec un micro, on peut aussi enregistrer ce qui est caché et ce qu'on ne voit pas, en fait. Et particulièrement, je travaille sur un projet actuellement à Marseille lié à des photos, et c'est des lieux qui ont été photographiés toujours au même moment depuis des années. Et j'étais voir un lieu comme ça, et en fait, ce lieu représentait une très très belle maison. Donc on est quand on regarde l'image, on est dans le sud de la France avec une très belle maison, un très beau soleil, un arbre devant et ainsi de suite. Et quand j'ai été sur le lieu, en fait, cette maison, elle est collée à l'autoroute. Et donc juste en dessous, il y a l'autoroute qui passe et le bruit est absolument infernal. Et en fait, on ne le voit pas du tout. Donc quand on regarde l'image, on a une vérité, une réalité en tous les cas, qui est une belle maison dans le sud de la France. Mais si tout à coup on ne fait que enregistrer le son de cette maison, ben finalement on se rend compte que c'est peut-être la maison de l'enfer aussi, quoi. Donc je pense qu'il y a cette notion de cachet, et moi j'aime bien travailler sur cette histoire de qu'est-ce que ne montre pas l'image, qu'est-ce que l'image produit comme son, et qui va donc relativiser ce sentiment de vérité que peut ramener une image, parce que c'est très difficile de contester une image, même avec des personnes habituées à l'image et ainsi de suite. Quand vous commencez à questionner une image, c'est parfois très compliqué. Par contre, le son, ça amène toujours questions, critiques, réflexions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on doit l'entendre comme ça ou pas? Est-ce que la source de ce son est réellement ça? Non, moi j'entends plutôt ça. Il y a de la subjectivité, il y a tout ça qu'il n'y a pas dans l'image, quoi. Et je pense que il y a le proche et le lointain, mais il y a aussi cette histoire de cacher et de visible.
Oui, parce que là, on imagine très bien, par exemple, que cette photo de maison dans le sud, selon la personne qui voudrait la rendre sonorement, la personne irait enregistrer l'autoroute ou irait, du coup, plus artificiellement, presque plus en studio, enregistrer des cigales.
Oui, ou par exemple, même en restant dans le réel, on pourrait très bien, parce que j'ai rencontré la personne qui habite dans la maison, en fait, elle m'a dit non, c'est pas du tout dérangeant, la maison, donc elle avait fait un espèce de bunker, de triple le vitrage, et à l'intérieur elle avait une énorme véranda avec des végétaux et tout, c'était magnifique, hein, et on entendait effectivement pas du tout l'autoroute, quoi. Mais ou alors effectivement on peut rendre aussi compte de ce bocal, enfin il y a beaucoup de choses qui sont possibles, même dans cette, même sans aller jusqu'à le fait de trafiquer, même dans le réel il y a parfois des situations qui permettent de dire deux choses opposées, quoi.
Bah, du coup, ça tombe vraiment bien parce que la deuxième série d'extraits qu'on voulait vous faire écouter, justement, montre ses, enfin, sont tirés d'un film, Les Vacances de Monsieur Hulot. Et ce qui est assez particulier avec ces extraits-là que vous aviez choisi, Daniel Dehé, c'est que en fait, les sons viennent nous révéler ce que l'on ne voit pas sur l'image. Et donc, on va vous faire écouter ça tout de suite.
Il est là.
Bien suivre l'escalopagine et du pain.
Moi, suppension.
C'est parti.
Un supplément mayonnaise au 4.
Autant pour moi.
Une demi-rosée aussi.
C'est noté.
Une badoine au compris.
Un bistex avec un 2 à poil, saignant à bleu et du pain.
Ça marche.
Moule marinière.
Ça fait deux.
Enlevé.
Il y a un bœuf pendant qu'il marche.
Il n'y en a plus.
J'attends toujours les fruits de mer, un saucisson vert et du pain.
Voilà.
Alors, c'était donc des extraits issus de trois séquences différentes, avec la première, donc une voiture qui cale sur la côte, et vous avez pu entendre la campagne. Le deuxième, c'était donc un restaurant au bord de la plage, et on entend les serveurs prendre les commandes. Et le troisième, c'était les enfants qui s'amusent au bord de la plage. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, mais ce qui est intéressant là chez Tati, c'est cette reconstruction. C'est-à-dire que lui, il a choisi la discontinuité. La question de paysage, c'est justement cette question de continuité. Et or, le microphone, il fait de la continuité, parce que le magnétophone derrière, il fait un enregistrement qui produit une temporalité continue. Notre écoute n'est pas du tout en continuité, notre écoute est tout le temps en discontinuité. Et ce que fait Tati, là, c'est justement de refabriquer une discontinuité. Alors, là, le premier plan, c'est on est en pleine campagne, il y a la voiture de Tati qui pétarade. Alors, évidemment, on n'entend pas les ambiances de la campagne, et ce qui fait entendre les ambiances, c'est le moment où le moteur cale, la voiture monte une côte, le moteur cale, et d'un seul coup on a les oiseaux. Et puis évidemment, le plan, ça dure 3 secondes ou 4 secondes, tout de suite il nous montre des cyclistes qui sont en train de rouler, et tout de suite une voiture les dépasse et les petits oiseaux ont disparu. Donc en fait, il nous montre non pas la campagne comme on le ferait dans un film de fiction actuel où on tartinerait une continuité d'ambiance en disant je vais vous montrer que c'est bien la campagne. Au contraire, là, il nous la montre dans des entrebâillements. Faut dire que dans le film précédent, dans Jour de fête, Ce qu'il a fait, qui est magnifique, c'est que pendant tout le film, qui se situe dans un village de campagne du centre de la France, on a une place de village avec le garde champêtre, etc. Et il nous fait entendre des poules qui sont présentes au son, mais qui sont jamais présentes à l'image. Et même quand on rentre dans les magasins, chez le coiffeur, par exemple, les poules sont en très gros plan, alors qu'il n'y a aucune poule visible. Donc il nous fabrique, si vous voulez, on pourrait parler là d'un paysage sonore qui n'a rien à voir avec ce qui est vu, mais en même temps qui a tout à voir, qui nous dit là, finalement, on est au centre de la France, on est dans la France profonde et on est en pleine campagne, et qui nous rappelle tout le temps qu'on est en pleine campagne. Là, dans les vacances, le deuxième extrait, c'est... On se trouve au restaurant, les garçons prennent les commandes, enfin, crient les commandes dans les cuisines, et on va dehors, le plan se situe ensuite sur la plage. Sur la plage, il n'y a plus personne, et ce qu'on entend, c'est les cris dans les cuisines. C'est-à-dire qu'il remplace toute l'ambiance de mer, toute l'ambiance des enfants, etc., par uniquement ces cris qui sortent des cuisines, qui nous dit... finalement, que la plage est déserte. Hein, c'est en faisant apparaître l'intérieur qu'à l'extérieur, je veux dire, qu'on se rend compte qu'à l'extérieur, il n'y a plus rien. Et puis le troisième élément, c'est les enfants sur la plage. Alors, ce qui est très intéressant là aussi, c'est que la plage, il ne nous la décrit jamais par des vagues. C'est-à-dire que les vagues, on les a à l'image, et il n'y a pas besoin de les mettre au son. Donc, il ne les met pas. Il les met... seulement quand la fenêtre s'ouvre, par exemple, il fait entendre une vague, hein, et ensuite il y a la voiture de Hulot qui pétarade, ou bien il mettra les enfants qui crient « Oh, elle est froide !» ou « Maman, t'as vu le cerf-volant ?» C'est-à-dire des éléments qui décrivent finalement des paroles qui sont spécifiques de la plage. Donc en fait, il passe par la bande toujours, hein, comme on fait au billard. C'est jamais un tir direct, c'est par un autre biais, par un biais que la chose est donnée. Et du coup, ça crée un creux, ça crée quelque chose qui ne travaille pas en surcharge. Il n'y a pas un son qui confirme l'image, et puis une image qui confirme un son, hein, comme d'habitude dans le cinéma synchrone, mais au contraire, quelque chose qui va se compléter, se multiplier, mais surtout se désigner, hein, se désigner comme élément à entendre. Moi, sa méthode, c'est celle du sculpteur, hein, c'est de retirer de la matière et de faire apparaître que ce qui est important de n'entendre.
Mais ce qui est intéressant là, c'est que finalement, c'est un très petit élément et un élément très spécifique qui vient signifier un ensemble très grand. La plage, la mer, finalement, un enfant qui dit « Maman, elle est froide », ça suffit pour que le cerveau entende finalement toute cette variété de
ça, plage. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire c'est ce que nous a fait comprendre la photographie et la peinture, c'est-à-dire c'est la partie pour le tout. Et le photographe qui nous prend l'épaule, je ne sais pas, d'un flic, et il nous place d'un seul coup à un endroit dans le plan qui cadre. On n'a pas besoin de voir tout le policier pour comprendre la situation qu'il y a derrière. Et du coup, c'est une mise au relatif. Hein. Un seul élément met en interrogation la totalité, ou en questionnement, ou en désignation la totalité. C'est un convertisseur, quoi, de l'image.
Médiaudique, c'est quelque chose que vous pratiquez dans votre travail, le fait de...
Oui, là d'entendre la discussion, ça me faisait penser aussi à cette question du hors-champ, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on a des éléments à l'image qui nous disent ou qui nous racontent quelque chose, et peut-être que des sons qui ne sont pas à l'image, ou en tous les cas, où la source sonore n'est pas directement à l'image, peut tout à fait nous raconter tout autre chose, et donc nous faire un film qui soit dans une autre forme de narration que celle simplement d'une image qui fait le son de ce qu'on voit, quoi. Et je pense par exemple à une séquence que... Enfin, j'interviens des fois à Louis Lumière, et c'est un exercice que je fais tout le temps. Je leur fais écouter une séquence de Pickpocket de Robert Bresson. Et c'est au début du film, et en fait, il y a trois mots d'une voix off, et puis il y a une ambiance de champ de course. Et en fait, ça c'est le son, c'est ce qu'on entend. Donc quelqu'un au champ de course qui se dit, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, qui se pose une question sur le fait de faire quelque chose. Donc ça raconte quelque chose, hein. Il y a une narration très forte dans le son. Et par ailleurs, à l'image, on voit un homme effectivement dans un champ de course, mais qui est en train de commencer à hésiter à aller voler dans le sac de la dame qui est devant elle. Donc évidemment, quand on associe l'image au son, on raconte une toute autre histoire, alors qu'en général, les élèves de Lumière, ils disent « Ah ben, c'est un mec qui est aux courses, et puis il se pose la question de savoir s'il va jouer ou pas, quoi. » Et voilà. Et effectivement, là, tout à coup, cette décorrélation entre le son et l'image, ce que faisait très bien Robert Bresson, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le son va prendre en charge une narration que l'image ne va pas prendre en charge, et vice-versa. Et c'est l'expérience, par exemple, qu'on fait beaucoup, le dialogue dans lequel on est avec Samuel Bollendorf, qui est photographe, et avec qui on construit des films où on est tous les deux l'un à côté de l'autre, et puis à chaque fois... On se pose la question, bon, qu'est-ce que raconte en fait ton image ? Ah ouais, ton image, il y a ça, donc moi, je peux m'en émanciper, mais ça veut dire qu'au niveau de la narration sonore, je peux aller ailleurs. Je peux peut-être raconter autre chose. Par exemple, je sais pas, quand on avait fait À l'abri de rien, qui était une enquête sur le mal logement, tout à coup, les gens, ils étaient dans des situations compliquées, donc des fois ils s'effondraient, des fois ils étaient... peut-être que ça, c'est peut-être acceptable en son, ça l'est peut-être moins à l'image de photographier quelqu'un qui est complètement effondré. Peut-être pas, je sais pas, je veux pas spécialement mettre d'interdit, mais peut-être que, en tous les cas, nous, c'était le parti qu'on avait pris sur À l'abri de rien, c'était que les gens, quand ils étaient à l'image, ils avaient une certaine dignité, ils maîtrisaient leur image, ils savaient comment ils allaient être photographiés, ils participaient à la manière dont ils allaient apparaître. Et au son, ils étaient plus dans l'intimité, dans la confidence. Et donc, il y avait quelque chose, il y avait deux degrés de narration un petit peu différents, quoi.
Mais alors là, du coup, on en revient au vide, au manque, au silence. Là, pour l'instant, on parlait de cinéma. Et quand on a un objet uniquement sonore, radiophonique, comment on entretient ce rapport avec le manque, le vide ? Comment ça se travaille sonorement quand on ne peut pas avoir ce rapport à l'image ?
Il y a plusieurs façons. Là, en l'occurrence, celle qui me vient à l'esprit, c'est celle qui est issue du cinéma, c'est la coupure. C'est-à-dire, justement, la coupure de la continuité temporelle permet de faire alterner, d'être sur des éléments qui se placent, même sur un même décor, à des distances différentes, dans des proximités ou des éloignements. Il y a toute une dynamique énergétique qui se crée par le montage. La coupure permet de coller côte à côte deux éléments qui sont dans des énergies différentes et qui font que d'un seul coup le cerveau doit reprendre du temps pour se replacer et pour reconsidérer la situation. Je crois que là on est dans une question de narration et la structuration d'une narration, c'est justement un travail qui doit se penser sur combien de temps est nécessaire pour intégrer un espace et est-ce que cet espace m'a suffisamment nourri pour pouvoir s'en détacher. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un temps de vie, d'habitat d'une situation et qu'il va falloir tout de suite refaire basculer ou augmenter d'un surgissement, d'un événement nouveau qui va venir ou de... tout au contraire, de l'hybrider avec un autre élément, qui peut être une voix supplémentaire, qui peut être un élément musical, qui peut être quelque chose qui va être mixé dessus et qui ne vient pas forcément du même endroit. Hein. Mais c'est ça la question pour moi de la construction, c'est tenir l'écoute, faire tenir l'écoute à l'auditeur. Et je crois qu'on est les premiers à se poser cette question-là au moment où on construit, oui.
Oui, au départ, c'était la question pour revenir à... Excusez-moi.
Comment est-ce que vous pouvez rendre compte du silence ?
Ah oui, puis il y avait surtout cette question du manque, en fait. Oui, c'était là-dessus que je voulais réagir, parce que moi, je pense très sincèrement être venu au son avec... je pense que la chose moteur, ça a été ce manque, en fait. Ce manque supposé du son, qui est effectivement, au son, il manque l'image. Moi, je me souviens d'une anecdote. Une fois, on avait écouté un documentaire radio dans un festival de cinéma à Nyon, en Suisse. Et quand j'étais arrivé dans la salle de projection, projection, j'avais trouvé le CD que j'avais fourni, et dessus il y avait marqué pas d'image, qu'en faire. Et j'avais trouvé ça, j'ai gardé le CD d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce qu'effectivement il y a une espèce de manque concernant le son, mais qui finalement devient une force, parce que ça nous émancipe de quelque chose. Moi, je trouve que ça émancipe d'une certaine vérité, de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de cette histoire de l'image qui est quand même extrêmement envahissante dans ce que ça imprime comme vérité, comme chose indiscutable. Et en fait, ce manque, soi-disant, d'image, ça nous permet de plonger dans quelque chose d'autre qui est le minimaliste, l'imaginaire, le silence, les choses qui vont nous permettre de reconstituer justement un paysage. Bon, comme on l'a entendu dans les extraits de Tati, c'est vrai que un élément qui n'est pas spécialement de ce qu'on voit peut nous permettre de reconstituer tout un monde, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est une force, quoi, ce manque du son.
Et du coup, qu'est-ce qui fait paysage exactement ? Parce qu'on a parlé de plein de paradoxes, du manque, du silence. Et pour vous, est-ce que le paysage, c'est juste les arbres qui bruissent, le bruit vraiment du vent dans les feuilles, ou les enfants qui crient, ou les éléments naturels qui tendraient du coup presque vers la nature morte comme paysage ? Ou est-ce qu'on ne peut pas considérer le paysage radiophonique dans toute sa vitalité ? Dans quelque chose d'assez intime qu'il peut véhiculer ou quelque chose comme ça.
En fait, ce qui frappe, par exemple, dans les extraits de Tati qu'on vient d'entendre, c'est que on voit le paysage, on entend le paysage, mais le paysage est vraiment incarné. C'est presque que des personnes humaines qui parlent, qui ont vraiment une interaction les unes avec les autres. Et ça nous semblait assez paradoxal de parler de paysage quand on pense au paysage, le tableau qui représente la nature, et de voir que par le son, peut-être le paysage est beaucoup plus incarné et beaucoup plus humanisé.
Ouais. Ce qui est intéressant dans ce film, d'abord, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, c'est que des monologues. Et ça, c'est extrêmement puissant de décider ça. Ça veut dire que finalement, c'est que de la subjectivité, qu'une parole qui définit un regard par rapport au monde ou par rapport à une situation. Et ça, c'est ce que sait faire, par exemple, magnifiquement, Van der Kuiken avec L'enfant aveugle, Herman Slobe, ou des films comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais finalement la possibilité de faire entendre ce que les gens pensent de la situation dans laquelle ils sont. Et c'est ça qui pour moi, c'est ce que j'appelle représenter une écoute, c'est-à-dire ça dit finalement comment on s'inscrit dans un espace. Alors par ailleurs, évidemment, les espaces reconstruits nous disent des choses, et même quand on ne les reconstruit pas, ça nous dit une vitesse, une énergie qui y règne, ou au contraire, un espace paisible, etc. Mais pour moi, si vous voulez, cette surcharge d'informations, finalement, efface les éléments qui la constituent. Pour moi, la question, justement, c'est toujours comment la décharger pour la faire entendre. La force que l'on a, nous, dans la nature, c'est de pouvoir juste écouter un bourdon qui est sur une fleur et d'oublier tout le reste, et d'oublier le vent dans les arbres, etc. Les vents dans les arbres, finalement, ils ne sont pas intéressants parce que c'est du bruit blanc. Alors, si, ils peuvent être intéressants parce que tous les arbres ont un son différent et qu'une pinette, c'est pas une chêneraie et ça sonne complètement différent. Mais c'est pas ça qui fait image. C'est quelque chose qui sera plutôt un élément soit gênant, soit qu'il faudra employer de manière très, très délicate, très contrôlée. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du « et puis ça, et puis ça, et puis ça » qui me paraît important, plutôt que « ça, plus ça, plus ça, plus ça ». C'est que le temps, pour moi, c'est un temps de succession, et c'est la succession des émergences. Nous ne pouvons écouter qu'une chose à la fois. Et justement, notre écoute du paysage, c'est une succession d'éléments qui viennent tour à tour et qui constituent en fait un parcours, une traversée, un voyage à l'intérieur d'un monde que l'on habite.
Moi, je dirais que je pense beaucoup paysage sonore avec la question de la narration, du récit. Et je pense qu'il y a paysage, enfin, en tous les cas, moi, là, je parle vraiment de ma pratique. En tous les cas, pour moi, il y a paysage sonore à partir du moment où il surgit quelque chose. Il y a des éléments, parce que dans les sons, il y a des concordances, il y a des hasards de choses qui se passent dans les sons réels qui sont juste complètement merveilleux. Et moi, ils sont souvent liés à un récit. Et par exemple, j'ai en tête un documentaire que j'ai fait qui s'appelle Poudreuse dans la Meuse, qui parlait de la consommation de l'héroïne dans le département de la Meuse. Il y a une usagère qui me parle, qui est avec son enfant dans un parc, et qui me parle de son mécanisme d'addiction et ainsi de suite. Et à un moment donné, à la fin de cette séquence, bon, j'enregistre ça, donc c'est la matière évidemment que je vais aussi chercher en tant que documentariste, c'est-à-dire que je vais explorer, mais d'une certaine manière, elle ne me suffit pas en termes de documentaire. Si je n'ai que ça, je n'ai pas de documentaire. J'ai un documentaire à partir du moment où il va émerger quelque chose que j'attendais pas, et souvent ça vient du paysage, souvent. Et dans cette séquence, ce qui surgit, c'est cet enfant qui veut continuer à faire de la balançoire et qui crie. Moi, je suis un peu à distance parce que l'enfant est un peu plus loin. Et il crie et il dit encore, encore. Et puis elle est là. Elle lui dit non, 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 comme ça. Et ça dure et ça dure et ça dure. Et ce moment, même au moment où je l'enregistre, évidemment que c'est pas quelque chose que je peux prévoir. Je sais pas que ça va se produire. Et je suis à la bonne distance parce que évidemment, je suis pas très proche d'eux parce que bon, il y a une scène de famille à laquelle je suis peut-être pas complètement invité, quoi. Et tout ça fait paysage sonore parce que je suis un peu loin, et puis parce que cette femme qui vient de nous parler de son problème d'addiction et sa difficulté à en sortir, et ben elle arrive à dire non à un enfant qui lui demande encore, quoi. Et j'ai trouvé cette scène, pour moi, ça fait partie, bon, je pourrais en citer des dizaines, mais ça fait partie effectivement des paysages sonores, mais qui n'est pas un paysage sonore en soi, qui est un paysage sonore qui rentre dans une narration, en tous les cas en ce qui me concerne, dans une narration documentaire, quoi.
Et par rapport à la narration documentaire, toujours dans Poudreuse dans la Meuse, même les premières minutes du documentaire, justement, avec, en fait, ça s'ouvre avec des sons de nature, du paysage, mais ils viennent tout de suite être recaractérisés par un personnage de ce documentaire qui décrit la Meuse comme un endroit sordide, enfin, qui a des mots assez durs. Et en fait, on vient tout de suite recontextualiser ce qu'on entend en arrière-fond. Et c'est cette conjoncture des deux, à la fois le paysage.
Oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que effectivement, dans paysage sonore, on entend, on va directement vers plutôt les sons d'ambiance et ainsi de suite. Moi, je dirais qu'une voix, c'est aussi un paysage sonore. La prosodie qu'elle peut avoir, la tessiture, la manière dont la personne parle, l'accent, je sais pas, le débit de parole, tout ça est déjà tout un univers qui crée image. Et effectivement, dans ce début de Poudreuse dans la Meuse, il y a ça. Il y a cette voix. D'ailleurs, c'est absolument la seule chose que j'ai de ce personnage. Il y a cette voix qui est quand même une voix particulièrement grave et qui est particulièrement en adéquation avec ce qui raconte, quoi.
Et ben, tout de suite, je propose d'écouter un autre extrait qui fait aussi narration de Mehdi Aoudig, Le parvis de mon père.
Dans les années 70, mon père travaillait dans le bâtiment. Il était chauffeur-livreur en électricité. C'est comme ça qu'enfant, je remplissais les fiches de renseignement à l'école. Et mon père, il adorait les chantiers. Chaque jour, il y récupérait des objets improbables. J'ai encore une lampe de chevet dont il me disait qu'elle venait du trou de Beaubourg. C'est le seul objet que j'aimais bien. Les autres objets, ils finissaient tous à la décharge. Un endroit où il aimait bien m'emmener aussi. Il adorait tellement les chantiers qu'à chaque fois qu'on passait par la rue Beaubourg, on s'arrêtait pour regarder le trou des travaux du futur centre Pompidou. Moi, je ne comprenais rien. je voyais de la terre, des machines, de la ferraille. Et je détestais passer des heures à écouter les explications paternelles. Et puis, vers la fin du récit, il me glissait qu'il avait fait des livraisons sur ce chantier. Des bobines de fil électrique pour l'éclairage du parvis. Il était très fier. Aujourd'hui, je pense que mon père, c'est un peu la lumière du parvis devant Pompidou. Et puis, le gros monstre de tuyaux colorés est sorti du sol.
Bonjour monsieur, oui, c'est au 6e étage, on level 6.
Adolescent, j'ai découvert ce parvis et cette légère pente douce qui descend vers le musée.
Une espèce de clé à moulette.
Clé à moulette, c'est un peu clé à moulette qui permettait dans le projet utopique initial d'imaginer un édifice complètement mobile.
J'y ai passé des heures à écouter un homme armé d'une baguette qui mettait en scène des gens choisis dans le public. Il leur faisait jouer des histoires volontairement ridicules de princes et de princesses dans des amours empêchés. J'étais fasciné par cet homme. Je ne pouvais pas m'empêcher de venir le voir tous les jours. En fait, je découvrais le théâtre. Le soir, je revenais écouter des hommes africains qui discutaient pendant des heures de la situation au Zaïre, au Congo, au Mozambique ou au Mali. Parfois, ils se hurlaient dessus. Je découvrais la politique.
Voilà, alors on a choisi de diffuser un extrait quand même assez long, qui sont en fait deux extraits qu'on a montés ensemble pour voir justement cette diversité du paysage de Pompidou que vous proposez, parce qu'en même temps, c'est une traversée dans le paysage de Pompidou, les travaux de Pompidou, et en même temps, c'est un peu un paysage de votre adolescence que vous nous proposez.
Oui, en fait, c'est alors là pour le coup, on est surtout dans les extraits qu'on a entendus, on est vraiment dans la reconstitution, puisque évidemment la partie où on imagine que c'est des travaux, c'est des sons que j'ai enregistrés à Beaubourg, que j'ai transformés, que j'ai mélangés, et ainsi de suite. Parce que justement, enfin, dans l'idée de ce paysage, c'est aussi un paysage lié à une mémoire, en fait. Et je pense que c'est quelque chose aussi que de très important dans le son, c'est cette question de la mémoire, puisque quand on n'identifie pas un son, effectivement, on essaye de le relier à quelque chose qu'on a déjà vécu pour essayer d'identifier la source. Sinon, on est un peu inquiet si on n'identifie pas la source. Et voilà, c'était un peu cette question-là dans cette création.
Peut-être ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une création qui s'inscrit dans une série d'Arte Radio autour du Centre Pompidou. Et ce qui est intéressant quand on écoute du coup les différentes créations qui sont liées à ce centre, qui dressent un paysage de ce musée, on a vraiment une diversité de regards. Et là, on sent vraiment que c'est le preneur de son, c'est le créateur qui nous fait découvrir son paysage, puisque là, un même objet, le musée, le Centre Pompidou, inspire une variété incroyable de productions sonores.
Ben, en fait, il y a eu pas mal de discussions avec Beaubourg, parce qu'en fait, il voulait des fictions. Et évidemment, moi, je n'ai pas été vraiment directement vers la fiction, parce que ce qui m'intéressait, en fait, il y avait ce partenariat avec Beaubourg, et moi, j'ai juste dit à Arte Radio, moi, j'ai toujours adoré le parvis de Beaubourg, et puis j'ai raconté cette histoire du parvis de Beaubourg, où j'allais voir cet homme qui faisait du théâtre, et qui était un homme absolument fascinant. D'ailleurs, je n'étais pas du tout le seul à aller le voir tous les jours, il faisait des choses qui étaient très, très... très basique, mais qui était très prenante, quoi. Et voilà, je raconte cette histoire, et en fait, Sylvain me dit « Ah, mais c'est super, cette histoire, et tout, ça serait bien que tu la racontes, et tout. » Sauf que Beaubourg, en fait, les autorités de Beaubourg n'étaient pas d'accord, parce qu'ils disaient « En fait, c'est pas une fiction, quoi. » Bon, on a réussi à les convaincre en leur disant que c'était une autofiction, et que dans autofiction, il y avait fiction. Mais voilà, c'est aussi pour ça que les objets sont très différents, parce que moi, la fiction, enfin, en tous les cas, pour l'instant, et c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose vers lequel je vais naturellement dans les créations que je fais, parce que ce qui moi m'intéresse, c'est d'être immergé dans ce monde et d'interagir avec ce monde, J'y trouverai moins mon compte, je pense, dans la fiction.
Ça fait penser un peu à une autre question qu'on s'était posée. Enfin, l'idée de la fiction, est-ce que le paysage sonore ou le paysage radio, c'est plus un thème, donc un peu comme des arbres ou un parvis ou quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est vraiment une esthétique, c'est-à-dire une manière de raconter quelque chose aussi? Enfin, on l'entend un peu avec le parvis de mon père, comme a dit Colline, il y avait plusieurs regards qui ont été posés sur un même lieu, et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, le paysage radio, le paysage sonore, ça permet de rendre compte d'une certaine esthétique, d'une manière d'exprimer quelque chose. Du coup.
Oui, alors je dirais que thématique et esthétique, c'est presque deux termes évidemment qu'on peut appliquer au son, mais je crois que le son, de mon point de vue, ça se situe un peu ailleurs. Et ça se situe quelque part dans la mémoire, quelque part dans quelque chose de très ressenti, de très organique, et donc qui fait assez peu appel à la réflexion, en fait. Et je pense que dans thématique et dans esthétique, il y a aussi beaucoup de réflexion. Je ne dis pas que quand on fait du son, on ne réfléchit pas, mais en tous les cas, je dirais que quand on fait du son, on résonne, on vibre, Même il y a la question qui a été un peu abordée par Daniel, qui est la question du rythme. La question du rythme, à chaque fois qu'on est dans un studio de mixage, on ne sait pas pourquoi il faut arrêter ce son à ce moment-là et passer à l'autre. On a toujours... On peut être d'accord sans savoir pourquoi et pas être d'accord sans savoir pourquoi non plus, parce qu'il y a quelque chose de très organique dans le rythme et ça se situe plus là que dans quelque chose de l'ordre de la réflexion, je crois.
Ouais, c'est la matière qui dirige surtout, hein. C'est le matériau lui-même, c'est ce qu'on a pris qui finalement nous conduit, hein. C'est ce que disait Yann, hein, par Antoine, il était là-dessus, il disait que même dans le granit, pour le couper, il fallait comprendre le fil, où était le fil pour arriver à le couper correctement. C'est un peu ça, c'est la matière qui nous guide et qui fait finalement les formes et qui nous embarque. Mais ce qui est intéressant aussi de questionner, c'est que ce mot de paysage finalement renvoie à un tout, à quelque chose qui serait une globalité. Or le sonore, c'est jamais un tout, c'est toujours quelque chose qui surgit et qui est nouveau, qui est différent et qui va s'écrouler très vite et qui va être remplacé par quelque chose d'autre. Par contre, s'il y a un tout, c'est effectivement, comme tu dis, Mehdi, c'est que finalement, c'est dans la mémoire. C'est quelque chose que chaque auditeur va confectionner à partir de ce qu'il a saisi, de ce qui est apparu, et qui va faire du lien et qui va faire continuité. S'il y a continuité, elle est dans la mémoire. Et je crois que ça, c'est un paysage qui appartient à chacun et qui est construit à partir de l'expérience de chacun. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans la radio, ce que l'on a vécu, ce que l'on sait du monde, qui est notre propre expérience et qui n'est pas celle du voisin. Et c'est en cela que le sonore est puissant, c'est qu'il nous emmène à reconnaître, hein, finalement, reparcourir ce que l'on a déjà parcouru, ce que l'on connaît, qui est déjà sien. L'écoute sans l'image, c'est une appropriation totale. Alors que l'image, elle est là, on la voit, on sait que ce n'est pas la sienne, ça nous fait penser à, ça ressemble à, mais ça n'est pas l'objet. Le sonore, lui, il est totalement l'objet.
Mais alors du coup, est-ce que vous diriez qu'on peut vraiment faire un paysage sonore de tout ? Par exemple, est-ce qu'on pourrait faire un paysage sonore de ma grand-mère faisant un aligot dans sa cuisine ? Est-ce qu'on peut faire un paysage, voilà, est-ce qu'on peut faire paysage sonore de tout ?
Alors, c'est la question justement, c'est l'extension du terme paysage. Et effectivement, on pourrait dire que paysage, ça pourrait être une termitière, l'enregistrement d'un très gros plan, d'une chose très petite. Ça pourrait être une localité extrêmement étroite. Et ça peut être aussi le très large et le jusqu'où on ne peut pas voir, hein, au-delà de la ligne d'horizon. Donc, c'est ça, c'est l'orage qui arrive. On ne sait pas d'où il va venir. Denis, on entend déjà le roulement. Donc il y a effectivement une notion d'un territoire qui est très très grand et que l'on peut considérer par toutes ses dimensions, par toutes ses échelles. Et je crois que cette question de l'échelle est une question très intéressante dans le sonore. Je crois que justement la construction du sonore radiophonique, c'est de travailler par les échelles. La voix, c'est une proximité, c'est une question d'une échelle en plan assez serré. Toutes les ambiances, toutes les choses, c'est des plans très très larges et qui sont des points de vue aussi à chaque fois, mais qui sont dans une autre échelle. Hein. Je crois que c'est la cohabitation des échelles qui nous fait voyager, qui nous déplace surtout dedans.
Alors peut-être une question conclusive, vu que vous avez tous les deux travaillé pour le cinéma et pour la radio, on pourrait se demander un peu quelles sont est-ce qu'il y a des différences fondamentales du coup entre le paysage sonore de radio, le paysage sonore pour le cinéma. On en a eu un avant-goût avec les extraits de Tati. Est-ce que concrètement, quand vous prenez du son pour le cinéma ou quand vous prenez du son pour la radio, est-ce que ça change quelque chose dans votre pratique ? De la prise de son.
Ah bah oui, fondamentalement. Mais par les modalités de construction du cinéma. Si on fait du cinéma comme le fait Mehdi, c'est-à-dire en renversant la procédure et en se mettant avec le son d'abord pour ancrer les images ensuite, là on est en radiophonie. Hein, on est dans quelque chose qui est très proche de la radiophonie, même si elle diffère un peu, tu pourras en parler. Mais quand on est en prise de son pour l'image, hein, on est soumis à l'image et donc on doit la confirmer, la compléter. Et donc tous les éléments sonores que l'on fait, on sait pour quel plan on va les choisir. On sait donc à quelle distance, comment on va les jouer, même si on se rapproche un peu, même si on les fait plutôt de nuit que de jour pour les tricher et pour les avoir plus clairs, etc. Mais c'est des choses que l'on fait en vue d'une image. Hein, c'est-à-dire c'est un élément qui va... Alors voilà, c'est la soumission au regard, quoi. La radiophonie, c'est tout à fait l'inverse, quoi. C'est nous qui faisons l'image.
Oui, moi je dirais que quand je travaille avec le film, donc soit avec quelqu'un à l'image, enfin il y a toujours quelqu'un à l'image, mais soit en co-auteur avec quelqu'un à l'image, soit avec un chef opérateur, je pense le son à peu près de la même manière, au petit détail près, qui est que en fait je sais que je peux m'émanciper de certaines choses, parce qu'il y a des choses compliquées en son à obtenir et à avoir certains éléments très évidents sont parfois extrêmement compliqués à obtenir en radio, par exemple. On se prend toujours la tête à en gros répondre la question où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait, parce que les intervenants ou les gens que vous rencontrez, ils vous disent pas bah ici on est à Lyon, on est à l'ENS. Ils vont trouver super bizarre qu'on leur demande ça. Bon, bah, il y a des choses comme ça où parfois l'image nous permet de nous émanciper de ces choses-là. Donc ça me donne encore une autre forme de liberté. Par exemple, quand je travaille avec Samuel, j'ai une autre forme de liberté, mais je pense le son de la même façon. C'est-à-dire que je pense séquence sonore et je pense pas son pour séquence visuelle, quoi.
Oui, pardon. Maintenant, quand il y a l'image, évidemment, ça permet au son d'exister dans ses faiblesses. Par exemple, on parlait des arbres. Si on voit des arbres, eh bien, on peut mettre des sons qui sont extrêmement complexes et qui ne passeraient pas du tout en radio et qui sont trop riches ou trop compliqués ou au contraire trop plats, mais qui vont, avec l'image, être parfaitement accordés. Hein. Donc, c'est ça la question. C'est que le regard, finalement... a besoin d'avoir un élément de mouvement, mais cet élément de mouvement peut se tirer très loin. Le bruitage au cinéma, par exemple, c'est jamais le bon objet. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est le geste, et donc ce que l'on va entendre, c'est ce qui fait énergie dans l'image, c'est-à-dire le mouvement. Mais le mouvement en tant qu'énergie, et non pas en tant que vérité du timbre, puisqu'on voit bien l'objet à l'image. Donc on n'a pas besoin de sa vérité sonore, mais on a besoin de la vérité du geste.
Vous diriez que à la radio, du coup, on a plus besoin de reconnaître uniquement par le son les éléments. Par exemple, des bruits, vous disiez des bruits d'arbres qui seraient très complexes, au final seraient incompréhensibles uniquement à l'oreille ?
Oui, c'est sûr qu'il ne ferait pas image. Ça serait un bruit blanc qui ne dirait pas la nature de l'arbre ou la quantité d'arbres qu'il y a, etc. Ça dirait quelque chose qui fait du chut, mais chut, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Hein, ça peut être beaucoup de choses, ce bruit blanc.
Oui, par exemple, moi je pense à un bruit de vent comme ça. Je pense qu'associé à autre chose, parfois il peut bien venir. Je pense au film là que je suis en train de tourner. À un moment donné, j'enregistrais des musiciens dans la ville et c'était vraiment eux en train de jouer de la musique. Et on est en extérieur. Hein. Et à un moment donné, pendant le morceau, s'est levé un tout petit vent qui a amené un petit bruissement par-dessus la musique. Mais là, c'est presque du mixage naturel, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime effectivement en prise de son. C'est au moment où on arrive à un espèce d'élément de mixage naturel où si on voudrait, je crois que si on voudrait le recommencer en studio, on aurait beaucoup de mal à mettre le petit bruissement de vent sur la musique, il y aurait quelque chose qui fonctionnerait pas, je ne saurais pas dire pourquoi, mais en tous les cas, moi, c'est une méthode de fabrication qui me conviendrait moins, quoi.
C'est l'inattendu, ouais. C'est jouer de l'inattendu, ça c'est magnifique.
Je crois que on va devoir malheureusement clore cette table ronde, mais sur de très très belles images ou de très beaux sons. c'était une table ronde, juste pour rappel, sur le paysage radiophonique et surtout sur ce qu'il y a dans le champ du micro, du microphone. Et on vient de l'entendre, un paysage radio, c'est pas juste une photographie d'une belle villa luxuriante, c'est aussi tout ce qui n'est pas visible par l'image, c'est aussi tout ce qui est intime, toutes les histoires recélées par chacun d'entre nous, c'est aussi toute une question de mémoire, enfin c'est extrêmement riche, et à partir d'un tout petit élément, voire d'un tout petit élément inattendu, on peut réussir à recréer toute une ambiance, toute une atmosphère, et donc quelque chose d'extrêmement riche. Donc comme cette table ronde d'ailleurs, j'imagine. Merci beaucoup à vous, Mehdi Aoudig et Daniel Day, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir alimenté cette table ronde. Et justement, question alimentation, il est bientôt l'heure de Transistor Midi et pour certains d'aller s'alimenter aux rues. Pour ceux qui n'auraient pas envie de manger tout de suite des frites, vous pouvez venir dans le hall Félix Pécaud et stagner un petit peu parce qu'on va passer ici. Donc maintenant, ça va être très bientôt Transistor Midi.